Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Pendant une heure, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous tentons tous les jours de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. On essaye de faire ça toujours avec précision, mais dans la bonne humeur, n'est-ce pas Jimmy? Bonjour.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la rentrée des petits et des grands, mais surtout au moyen de remettre l'horloge biologique de toute la famille à la bonne heure. Avec l'été, les vacances, nos horaires de coucher ou de lever ont été complètement décalés et c'est parfois très compliqué d'arriver à reprendre le rythme habituel de l'année. Mais on va vous aider, vous donner des conseils pratiques pour les adultes comme pour les enfants. Et pour ce faire, nous recevrons le docteur Sylvie Royan-Parola. Elle est psychiatre spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, nous nous intéresserons aujourd'hui à un bobo qui touche les yeux, la conjonctivite. Savez-vous comment ça s'attrape? Savez-vous que c'est très contagieux? Et surtout, comment ça se soigne? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question d'éducation sexuelle.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par la question de Ginette.
J'ai entendu dans l'émission de Patrick Cohen que l'on savait soigner mieux qu'en début d'année la Covid avec les anticoagulants. Ma question est simple. J'ai une insuffisance cardiaque. Je fais de l'arythmie. Je suis donc en permanence sous anticoagulants. Suis-je protégée? Merci de votre réponse. Au revoir.
Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Ginette, de nous l'avoir posée. Jimmy, d'abord, est-ce que c'est vrai que désormais, les patients hospitalisés pour coronavirus, on les met très souvent sous anticoagulants?
Oui, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'une maladie respiratoire, mais que c'est une maladie qui va toucher de nombreux organes, dont le cœur, mais aussi les vaisseaux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des complications avec des occlusions au niveau de petites artères ou de veines. Et donc, on est à risque de faire, par exemple, une embolie pulmonaire ou un accident vasculaire cérébral. Sauf qu'on n'a pas encore la preuve formelle que mettre les personnes sous anticoagulants
systématiquement,
c'est mieux que de ne pas les mettre. On a l'impression que, mais attention avec les impressions. Alors, effectivement, chez les personnes qui sont à haut risque de complications...
Donc déjà, on parle de patients hospitalisés. Ce n'est pas quelqu'un qui est avec Covid à la maison, soigné tranquillement.
Il y a des protocoles qui sont en train de s'établir, qui sont établis un peu sur le tard, mais de personnes ambulatoires, mais qui seraient à risque de faire des complications, qu'on mettrait sous anticoagulants, soit de façon préventive, lorsque, par exemple, vous venez d'avoir une opération, on vous donne des anticoagulants pour éviter d'avoir une phlébite, soit, c'est-à-dire de façon curative, vraiment pour fluidifier le sang. Et ça dépend du risque. Donc, en un sens, Ginette, elle serait peut-être protégée de certaines complications, comme l'embolie pulmonaire. Mais en revanche, quand vous êtes sous anticoagulant avec l'insuffisance cardiaque, vous êtes à haut risque de faire une forme grave du Covid. Et souvent, quand on a de l'insuffisance cardiaque et qu'on est sous anticoagulant, on est un peu âgé. Donc, elle a deux au moins facteurs de risque qui vont faire qu'elle fera peut-être une forme grave. Donc, certes, les anticoagulants pourraient peut-être la protéger, on n'en est pas sûr. Mais attention, il faut surtout éviter de l'avoir.
Donc, Ginette ne peut pas du tout se considérer comme protégée par ce traitement au long cours qu'elle prend pour autre chose.
Elle devrait même se considérer comme à risque d'une forme grave et donc se dire « je suis plus fragile que les autres et donc je dois être vigilante ».
Donc, geste barrière pour elle, pour tout le monde et pour elle particulièrement. Hein, c'est
exactement.
Ça.
Alors, c'est vrai que geste barrière, on résume tout au masque, mais encore une fois, on oublie la distanciation sociale, donc se mettre loin des uns des autres. En extérieur, bon, de toute façon, on n'est pas collé. C'est important à l'intérieur de renouveler l'air. Très important, puisqu'on sait que le virus peut être suspendu dans l'air et donc
on
aérer le plus possible.
Grand, il ne fait pas encore trop mauvais, on y
même
va, on
s'il fait
tout
mauvais,
ouvert,
même s'il fait froid dans des bureaux, mieux vaut un coup de froid qu'un coup de coronavirus. Et puis se laver les mains, on a tendance à l'oublier. L'eau et le savon et le gel hydroalcoolique doivent faire partie de notre vie.
En tout cas, aucun traitement préventif en tout cas, qui a fait ses preuves aujourd'hui.
On espère un vaccin, mais on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur cette fois. C'est la question d'Estelle qui a 35 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Ça me gratte assez régulièrement dans une oreille. Hein, voilà, alors j'aimerais vous demander, est-ce que ça pourrait être de l'eczéma? Voilà. Ben, je vous remercie de votre réponse et bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup Estelle qu'on salue pour cette question. Alors Jimmy, l'oreille qui gratouille, est-ce que comme elle demande Estelle, hein, ça pourrait être de l'eczéma à l'intérieur de l'oreille? Est-ce que c'est possible à l'intérieur de l'oreille?
Oui, c'est possible. Alors il faut vérifier que ce soit pas une petite bébête. Hein. Parfois vous pouvez avoir un petit criquet ou un petit cafard qui rentre dans l'oreille. C'est horrible, mais ça peut arriver. Mais effectivement, l'eczéma du conduit auditif, c'est-à-dire le tuyau qui mène au tympan, est possible. Et c'est plus fréquent chez des gens qui souffrent d'eczéma, mais aussi de psoriasis, de maladies de la peau, ou même sans aucune pathologie. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque cet eczéma n'est pas traité, ça gratte, donc on se gratte, on va utiliser des cotons-tiges et ça peut évoluer vers une otite, en particulier lorsque vous vous baignez, l'otite du baigneur. C'est lié à l'inflammation du conduit auditif.
J'allais vous dire, une otite, simplement, moi j'ai l'impression qu'une otite, ça fait mal, mais ça peut simplement gratouiller aussi.
Oui, ça, alors au tout début, ça gratouille. Vous avez ces sécrétions qui vont s'accumuler, puis lorsqu'elles s'accumulent, elles vont former un bouchon. Si jamais vous allez à la piscine, de l'eau peut stagner entre le tympan et le bouchon de cérumen, et tout liquide qui stagne dans le corps humain s'infecte, et vous allez avoir l'otite du baigneur. Mais vous n'êtes pas obligé de vous baigner pour avoir cette otite externe, mais souvent, c'est le médecin qui fait le diagnostic. Vous n'êtes pas capable de faire la différence entre une otite externe et une vraie otite. Et souvent, cette otite survient lorsque vous mobilisez l'oreille. C'est plus douloureux, ça veut dire que c'est le conduit et pas le tympan. Le tympan, lorsqu'il est inflammatoire, en général, on est enrhumé, on tousse, on a de la fièvre. On a une espèce de rhinopharyngite.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Estelle qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme tous les jours jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Sylvie Royan-Parola. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée. Alors on est en période de rentrée scolaire. Certains sont déjà rentrés hier, d'autres demain. Ou même de retour au travail d'ailleurs pour certains après des vacances bien méritées. Alors que ce soit pour les adultes d'une part et les enfants, à cette époque de l'année, début septembre en général, je veux dire, dans quel état est l'horloge biologique des Français, là, au début du mois de septembre?
Globalement, ce qui s'est passé pendant l'été et pendant les vacances, c'est qu'on se décale et généralement, on se couche plus tard et surtout, on se lève plus tard. Moyennant quoi, la reprise est difficile parce que, évidemment, ce n'est plus du tout en équation avec les horaires de travail ou d'école. Et c'est un exercice de style particulier parce que notre horloge va mettre un certain temps pour se recaler.
Mmh. Jimmy ?
On dit souvent qu'il faut préparer la rentrée et son sommeil 15 jours avant le début des cours. Si on n'a pas tous réussi à se recaler...
On n'a pas réussi chez les Gomez, ça c'est sûr.
Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on va finir par y arriver?
Alors on y arrive nécessairement, hein, sauf dans des populations qui sont un petit peu dans... Soit avec un travail qui est un travail à horaire particulier, où là, ça va être la quadrature du cercle, ou bien chez des gens qui se mettent un peu en position d'opposition, où ce n'est pas simplement un problème de sommeil. Et notamment, c'est une des grandes problématiques chez l'adolescent, qui peut être dans une phase où il est un petit peu
en confrontation,
en bise-bise avec sa famille. Et là, ça va être difficile d'arriver à le recaler.
D'ailleurs, c'est une rentrée un peu particulière quand même, docteur Royan-Parola, parce que bon, on a cette menace permanente du virus au-dessus de nos têtes. Vous avez des données d'ailleurs, je crois, au réseau Morphée. Vous avez enquêté pendant le confinement, à la quatrième semaine du confinement, pour voir justement quel était l'impact de toute cette situation, de cette crise, sur le sommeil des Français. Qu'est-ce que ça a montré ?
Il y a 47% des gens qui disaient avoir un sommeil de plus mauvaise qualité qu'avant, enfin avec des troubles du sommeil qui étaient apparus. Mais globalement, on a vu des horaires beaucoup plus tardifs.
De coucher
Oui, des horaires de coucher beaucoup plus tardifs, des horaires de lever beaucoup plus tardifs. Une plus grande disparité aussi au niveau des horaires, c'est-à-dire que les gens avaient plus de liberté à choisir leurs horaires. Donc il y en avait certains qui continuaient à se coucher relativement tôt et se lever tôt, mais une plus grande majorité qui s'était décalée pour se coucher plus tard et se lever plus tard. Après, on a vu que globalement, les gens dormaient plus, un peu comme on fait en vacances. En fait, en vacances, on
ça,
dort...
Ça, c'est bien, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, tout à fait.
Mais certains dormaient trop, je crois, aussi.
Mais il y en a certains qui finalement, ne mettaient plus de limites et se retrouvaient avec des trous la nuit parce qu'en fait, ils restaient trop longtemps au lit et donc, ils n'arrivaient pas à dormir et leur sommeil se détériorait.
Jimmy ?
Si on revient au sujet du jour, le sommeil, vous dites qu'on a une horloge biologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Alors ça, c'est assez extraordinaire. Au niveau du cerveau, il y a des petites cellules qui sont amassées en noyaux et qui ont vraiment un rôle d'horloge. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, quand on prenait chaque cellule, qu'elle avait un rythme propre autour de 24 heures. Et c'est elle qui va finalement nous donner le temps. Et grâce à une interaction avec la lumière extérieure, c'est-à-dire qu'il y a des influx lumineux qui lui viennent directement par la rétine et qui arrivent au niveau de l'œil et qui lui apportent une information essentielle, c'est est-ce qu'il fait jour, est-ce qu'il fait nuit et quelle heure il est. Et cette information est ensuite retranscrite dans notre cerveau pour être diffusée dans tout notre corps grâce à une hormone qui s'appelle la mélatonine et qui va être en fait l'effecteur qui va dire il est telle heure. Donc on voit comment la lumière du jour va venir au sein même de notre cerveau donner une information qui va être transformée en un message de mise à l'heure en fait pour toutes nos horloges, parce qu'on a des horloges dans le cerveau, mais on a aussi des horloges au niveau de l'intestin, au niveau des muscles, ce qui fait que chaque organe va fonctionner au mieux à une certaine heure.
Et ce rythme de 24 heures, donc de toutes nos cellules dans le cerveau dont vous venez de parler, est-ce qu'on l'a tous, je veux dire, tous les êtres humains ont le même rythme, ou est-ce qu'après il y a des différences? Et même, est-ce que l'être humain par rapport aux animaux est le seul à avoir ce rythme de 24 heures?
Alors non, la spécificité du rythme circadien, c'est une spécificité de l'être vivant, quel qu'il soit, les plantes, puisque ça a été décrit d'abord chez les plantes, chez les animaux et bien sûr chez l'être humain. Mais après, il y a des différences selon les gens, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins calé en avance ou en retard, par rapport à l'horloge, ce qui fait qu'il y a des gens des couche-tôt lève-tôt et des couche-tard lève-tard.
Jimmy ?
Mais du coup, est-ce que l'horloge biologique est calée sur l'horloge du rythme scolaire ?
Ah, pas du tout.
Voilà, bon, ça commence bien. Hein, ça commence bien.
Non, le rythme scolaire, c'est un rythme comme le rythme de travail. Il n'est pas nécessairement en adéquation avec le rythme de la personne. Et notamment, alors, dans le rythme de la journée, on peut encore arriver à voir qu'il y a une activité scolaire dans la journée. Donc ça, c'est en phase avec notre horloge. Mais sur le rythme de la semaine, déjà, ça colle plus exactement, puisqu'il y a la rupture du samedi et dimanche. Et après, il y a le rythme des vacances qui n'est pas non plus un rythme qui est au top. Par exemple, on est en vacances pendant l'été, alors que c'est la période où, finalement, le sommeil va être très court et on va être plutôt plus actif, alors que l'hiver, on va avoir besoin de plus dormir. Et ce n'est pas du tout le rythme qu'on nous impose dans...
Bon, ça vous fait rire, effectivement, on n'est pas du tout réglé pour l'école. En fait, on n'aurait pas dû reprendre, c'est vraiment n'importe quoi. Docteur Royan Parola, on va faire une courte pause, on se retrouve dans un instant.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Avec nous cet après-midi, notre invité, c'est vous, docteur Sylvie Royan Parola. Je rappelle que vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée. Alors, pour ceux qui, comme chez moi, n'ont pas réussi à se recaler, à recaler les enfants avant le jour J, ni même les parents qui sont restés sur des heures de coucher de vacances, comment fait-on pour se recaler? Je crois que vous dites que la clé, bizarrement ou pas, je ne sais pas, c'est pas le coucher, c'est vraiment le lever qui va contribuer à remettre tout dans l'ordre.
Et oui, parce qu'au moment du lever, c'est là que, en fait, l'information lumineuse va vraiment arriver sur notre cerveau et va resynchroniser, donner en quelque sorte un top horaire à notre horloge interne. Et c'est le moment où elle est aussi le plus sensible à la lumière. Du coup, c'est vraiment là que ça va tout structurer dans l'organisation de la journée. D'ailleurs, par exemple, le rythme de la température, qui est un des rythmes fondamentaux du corps, eh bien, si on regarde les gens du matin, les gens du soir ou les gens intermédiaires, eh bien, le maximum, il est exactement au même moment par rapport à l'heure du lever. Donc, c'est vraiment là. D'accord. Que ça se joue.
Alors, Jimmy, du coup, le lever, tout se joue là, attention.
Oui, du coup, comment on fait concrètement? On achète des néons et à 7h du matin, on allume toutes les lumières dans la maison, ou est-ce qu'on a peut-être d'autres petites astuces plus raisonnables?
C'est plus économique aussi, hein, parce qu'avec 10 000 électricités...
Mais déjà, on se lève, ce qui est quand même un effort, hein, faut le reconnaître, après les vacances. Et on se lève à la même heure les jours de semaine et les jours de week-end, en tout cas pendant les 3 premières semaines, si on veut vraiment arriver à réentraîner l'horloge. Donc ça, c'est un exercice difficile. Pour faciliter ce réveil et ce lever, il y a certes la lumière, mais c'est quand même assez violent de se retrouver éclairé avec une lumière forte dès le lever. Donc peut-être déjà passer par une douche chaude, et ensuite...
Pas fraîche, alors, parce qu'on se dit, je vais prendre une douche bien fraîche, là, ça va bien me réveiller. Non, il faut
non,
mieux
parce
mieux
que ça permet d'augmenter la température centrale. Et enfin, un petit peu, hein, parce que...
Celle qui réveille le plus, c'est la chaude, alors.
C'est la chaude, tout à fait. Et après, se mettre effectivement dans un environnement plutôt lumineux, manger un petit peu, faire, si l'on peut, enfin pour les adultes en tout cas, 10 minutes, un quart d'heure d'exercice physique. Là aussi, pour augmenter sa température.
C'est votre routine habituelle, Jimmy, c'est bon pour vous, ça.
Et puis ensuite, par exemple, comme on parle de l'école aussi, plutôt aller à l'école à pied ou en vélo, en tout cas éviter que ce soit le parent qui dépose l'enfant, parce que ça économise entre guillemets du temps, mais ça resynchronise vraiment pas.
D'accord. Jimmy.
Du coup, ça veut dire que se coucher tard, tôt le soir, ça n'a aucun intérêt. Ça ne sert à rien de vouloir coucher les enfants à 19h en disant « Non mais là, demain, il y a école, il faut se coucher très très tôt. Mieux vaut les lever tôt en fait. »
Moi j'ai essayé, hein, mais à 23h, ça chante encore dans la chambre.
Il faut les coucher un petit peu plus tôt, bien entendu, et avancer progressivement l'heure du coucher, mais pas faire un switch vraiment trop important. Un enfant qui se couche à 22h pendant les vacances scolaires, enfin un enfant de 9-10 ans, si vous le couchez à 8 heures, il ne va pas arriver à s'endormir. Donc, il va falloir se coucher d'abord à 21 heures, puis après arriver à 20h30. Et c'est vraiment l'heure du lever qui va permettre, finalement, parce que l'enfant est fatigué, il aura sommeil, il se couchera plutôt spontanément.
Et là, on est dans la première semaine de rentrée scolaire. Donc, on va appliquer tous vos conseils. On lève de soin, ils sont bien obligés de se lever tôt. On n'a pas le choix. Voilà. Hein, ils vont aller à l'école. Mais est-ce que ce week-end, ils ont le droit à un petit rab de rythme de vacances, ou est-ce qu'on continue à garder les rythmes?
Le petit rab, il ne doit pas être vraiment trop important. Je vais paraître vraiment horrible là, mais idéalement, c'est vraiment la même heure. Sinon, une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard, mais pas deux heures et encore moins quatre heures plus tard.
Jimmy ?
Parfois, on a du mal à s'endormir le soir. On tourne une heure, deux heures, trois heures. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit se lever et puis attendre qu'il y ait une pression de sommeil ? Est-ce que vous avez des petites astuces pour mieux s'endormir ?
Alors, si vraiment on est en train de s'énerver dans son lit, de se lever et retourner, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Soit effectivement, ce n'est pas la bonne heure, soit on est préoccupé par quelque chose. Donc, il vaut mieux se lever, aller faire un petit peu autre chose, bouquiner un petit peu dans le salon et se recoucher après, tranquillement, plutôt que de rester au lit à s'agacer. Mais par contre, il faut faire attention à ce qu'on fait avant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir arrêté tout écran au moins une heure avant d'aller se coucher, d'être dans une atmosphère plutôt un peu calme et pas faire le match de foot juste avant d'aller se coucher. Les papas, ils adorent ça. Ils jouent avec leur gamin, ils les excitent bien juste au moment d'aller se coucher. Et le gamin, après, il se couche, il a pas du tout sommeil, mais c'est normal.
C'est comme les papas, comme Jimmy, le soir, il y a plein de choses aussi. Parfois, on a des pensées parasites comme ça qui nous empêchent de dormir. Jimmy, il pense à quels vont être les menus de la semaine pour la famille, les courses, tout ça. Quand on a trop de pensées parasites qui nous empêchent de nous endormir, vous avez un bon conseil, je crois.
Alors là, il y a un truc qui est quand on est avec pas mal de tâches à faire en même temps et qu'on a un petit peu peur d'oublier tout ce qu'on va faire et de pouvoir garder ses performances, eh bien c'est de faire une to-do list de ce qu'on a à faire le lendemain, et on le fait une demi-heure, une heure avant d'aller se coucher tranquillement, en disant bon voilà, demain il faut que je fasse
ça, tout sur le papier,
tel rapport à faire, il faut que je fasse les courses machin, il faut que j'achète tel truc, etc. Et au moins quand on se couche, on est libéré de ça et on n'est plus assailli par ces pensées là.
Docteur Royan-Parola, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Sylvie Royan-Parola. Vous êtes psychiatre et spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée. Alors aujourd'hui, docteur, vous nous aidez à remettre nos horloges biologiques à l'heure. Et à présent, on va passer aux enfants et aux ados. Alors chez eux, comme chez nous, c'est sur le lever, vous nous l'avez déjà dit, qu'il va falloir agir pour se remettre au bon rythme. Mais on aimerait bien qu'ils se couchent quand même un peu plus tôt. Alors pour les ados surtout, qui ont pris parfois l'habitude, on sait qu'ils sont quand même assez sur leur écran, le soir regarder Netflix jusqu'à pas d'heure, etc. Est-ce qu'on peut leur conseiller éventuellement, parce qu'ils ont Netflix est devenu presque un doudou, enfin les vidéos qu'ils regardent, ça les aide à s'endormir soi-disant, est-ce qu'on peut leur conseiller plutôt d'être dans l'audio, je sais pas, écouter des podcasts, quelque chose où il n'y a pas d'écran en tout cas, pour combler ce manque d'écran?
En tout cas, absolument, il faut éviter tout ce qui apporte de la lumière, que ce soit un téléphone portable.
Même la télé?
Bien sûr, enfin dans le lit en tout cas, oui, pas du tout de télé, ou un iPad, enfin bref, tout écran, ça c'est proscrit. Maintenant, que ce soit éventuellement un audio un petit peu comme la petite histoire qu'on raconte, pourquoi pas, mais ce qui est problématique alors, c'est que ce soit avec des écouteurs. Ah. Et puis la deuxième chose, c'est que il n'y ait pas d'arrêt.
Pourquoi les écouteurs?
Bah parce que ça fait plus de bruit quand même.
Ouais, ça stimule plus le cerveau peut-être. Oui.
Par contre, il faudrait programmer la fin. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, une série, si vous mettez que le son.
Ça enchaîne la suivante.
La fin, je ne sais pas comment on fait. Mais c'est
Jimmy,
possible.
Vous avez une idée de comment on programme la fin? Non,
non, je ne suis pas plus brillant que les autres. Mais vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais jusqu'à quelle heure on peut être exposé aux écrans? Quand est-ce qu'on doit les couper? C'est peut-être valable aussi pour nous, les adultes.
Alors, il faut vraiment au minimum une heure avant d'aller se coucher que les écrans, que tout écran soit arrêté. Et puis aussi que les portables soient mis en position soit avion, soit pas de son. Et même pas du tout d'alerte, parce que le problème des téléphones que les ados posent sur leur table de nuit et qui va vibrer ou qui va faire des petits bips en cours de nuit, c'est un vrai souci parce que on s'est aperçu que ça fractionnait le sommeil. Donc ça aussi, il faut vraiment y faire attention.
Comment on sait d'ailleurs, en fonction de l'âge de son enfant, parce que bon, certains auditeurs ont des enfants de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, des ados, comment on sait combien de temps il doit dormir pour être en bonne santé, en fonction de son âge ?
Il y a vraiment il y a eu toute une étude qui a repris tout ce qui était publié sur le sommeil, et on sait quels sont les besoins de sommeil chez les petits, moyens, plus grands. En gros, un petit de 3 ans, c'est un enfant qui va dormir entre 10 heures et 15 heures par jour pour les gros dormeurs.
Oui, c'est large.
À fait. À 6 ans, ils vont dormir plutôt 10-12 heures. Avec les variations. Et à 10 ans, c'est 10 heures.
Ah, facile
donc
à retenir.
Ça, c'est facile.
10
à
ans, 10 heures. Okay.
Et chez les ados, c'est entre 8 et 10.
D'accord. Jimmy ?
Jusqu'à quel âge un enfant a-t-il besoin de faire la sieste ? Et est-ce que, d'ailleurs, les adolescents devraient en faire une le week-end, par exemple ?
Alors, pour les enfants, la sieste est physiologique jusqu'à 3-4 ans. Après, il y a des enfants qui continuent à avoir une sieste ou en tout cas un petit coup de barre, pas tout le temps, jusqu'à 5 ans. Après, ça disparaît. À 6 ans, il n'y a vraiment plus du tout de sieste.
Les et ados qui sont
entre 6
comme
et 10,
Jimmy,
ils ont faire dormir un enfant à la sieste entre 6 et 10, c'est impossible ou quasi.
D'accord.
Par contre, les adolescents sont de nouveau avec une somnolence dans l'après-midi, mais qui est essentiellement liée à la privation de sommeil. Ils ne dorment pas suffisamment la nuit. Et le problème de la sieste, c'est que s'ils font une sieste d'une demi-heure, ça va. Mais ils ont la fâcheuse habitude de la faire en général en rentrant de l'école et pendant une heure. Après, ils sont en pleine forme et pas du tout sommeil le soir. Donc, ils se redécalent et c'est un cercle vicieux. Donc, c'est un peu à double tranchant.
Jimmy, oui.
Oui, parce que souvent, on parle du manque de sommeil comme juste la conséquence d'une fatigue. On sera fatigué, ça va aller. Mais est-ce que ça peut être une source d'échec scolaire ?
Alors, oui, tout à fait. La privation de sommeil est associée à une diminution de la réussite scolaire, hein, avec vraiment des enfants qui sont plus en difficulté. On a quand même à peu près 30% d'enfants qui dorment moins de 6 heures, enfin d'adolescents qui dorment moins de 6 heures. C'est énorme. Et la privation de sommeil, à ce moment-là, va s'accompagner de baisse des performances scolaires.
Parce qu'un ado doit dormir combien de temps d'ailleurs ? Dormir
8 à 10.
Ouais, oui, donc, mais pas tant que ça, mais comme ils sont un peu décalés, c'est ça le problème, c'est qu'ils se couchent tard et donc ils se lèvent tôt à cause de l'école et donc ils manquent de sommeil.
Oui, il y a le fait qu'ils se couchent très tard. Là, on va avoir des éléments d'études avec les horaires, c'est impressionnant. Alors, je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais le nombre d'adolescents qui, en période de cours, se couchent après 1h du matin est importante.
Et c'est un vrai problème, effectivement.
Et donc, c'est un vrai souci parce qu'il n'y a pas de respect du rythme physiologique du sommeil.
Docteur Royan-Parola, vous m'avez confié en préparant cette émission, vous étiez d'ailleurs inquiet, vous les spécialistes du sommeil, pour tous ces enfants qui ne sont pas retournés à l'école depuis 6 mois avec le coronavirus, évidemment, et surtout des adolescents, parce que ceux-là, ils risquent d'avoir un afflux, vous disiez, dans vos cabinets, avec des troubles du sommeil, là, à la rentrée.
C'est une situation inédite, hein. C'est la première fois que des ados et des individus en général, mais plus particulièrement des adolescents, surtout dans la situation où pendant 6 mois, parce que c'est ça, ils ont été beaucoup plus libres dans l'organisation de leurs horaires, d'autant qu'il y a eu les 2 mois de vacances qui, là, pour le coup, a encore enfoncé le clou. Donc, déjà avant les vacances, on avait des données chez les adolescents qui montaient que 30% étaient décalés. Et là, avec 2 mois de vacances où la liberté était beaucoup plus grande, puisqu'il n'y avait même pas de cours à distance, on est très inquiet sur qu'est-ce qui va se passer dans les 3 semaines qui viennent. En gros, soit les jeunes vont pouvoir se recaler et là, ils vont pouvoir continuer leur année scolaire, soit on va voir des décrocheurs et on va les voir au bout de la 3e semaine. Parce que si leur sommeil ne s'est pas recalé, ils vont s'endormir à 2h, 3h du matin pour un lever à 7h. Et bien évidemment, ça ne va pas aller, quoi.
Merci beaucoup, docteur Royan-Parola, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné tous vos bons conseils pour remettre nos horloges biologiques à l'heure de la rentrée. Merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Focus sur la conjonctivite. Je suis certaine que vous savez ce que c'est que cette pathologie qui touche les yeux, mais par quoi est-ce provoqué? Savez-vous à quel point c'est contagieux? Et bien sûr, savez-vous comment ça soigne? Notre journaliste Benjamin Lévesque, qui n'a pas froid aux yeux, a été vous interroger sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Ah là là, les yeux rouges.
Une infection de l'œil, donc ça peut arriver suite à une poussière, une bactérie, un truc qui arrive dans l'œil.
La conjonctivite, c'est quand tu te réveilles le matin et que t'as les yeux qui collent, dégueulasse.
Ça trouble la vision, c'est assez compliqué d'ouvrir les yeux puisque effectivement ça fait souffrir. Mais je ne sais pas comment ça soigne, hormis avec des gouttes.
Ouais, ça m'arrive assez régulièrement avec mes lentilles, ouais.
Si on s'en occupe pas, ça peut dégénérer.
Bah le traitement, c'est d'écolir pour soulager et puis faire partir cette inflammation parce que ça part pas tout seul.
Les gouttes pour les yeux et je rince matin et soir.
Bon Jimmy, on va parler de la conjonctivite. Qu'est-ce que c'est d'abord que ce bobo alors ?
Alors, la conjonctivite, c'est l'inflammation de la conjonctive. La conjonctive, c'est cette membrane qui recouvre l'intérieur des paupières et qui tapisse le globe oculaire. Et tout le monde connaît les symptômes de la conjonctivite. Tout d'abord, ça gratte. On a l'impression d'avoir un grain de sable dans les yeux. Ça peut toucher un œil ou les deux. Et puis, on peut avoir des douleurs. On a un œil qui est rouge, douloureux, mais sans jamais baisse de l'acuité visuelle. C'est-à-dire que vous ne voyez pas moins bien. Mmh. Et vous avez en plus de ça des petites sécrétions qui
ça
peuvent
coule.
Être plus ou moins purulentes et l'œil qui larmoie. En revanche,
ça
les
peut
causes...
même être un peu coloré. Hein.
Un peu, ouais, c'est un peu cracra.
Ça avait l'air sympa, mais...
Ouais,
mais...
Non, vous pouvez en plus avoir l'œil qui pleure, en fait. Hein, qui
tout
pleure,
simplement,
tout simplement. Et il y a plusieurs causes. Ça peut être une conjonctivite virale, bactérienne ou tout simplement allergique.
On va y venir, mais d'abord, est-ce que la conjonctivite, c'est plus fréquent chez l'adulte ou chez l'enfant?
Ça dépend des périodes de l'année. En période estivale, les enfants peuvent être touchés, mais aussi les adultes, puisqu'on a des conjonctivites allergiques. Et puis en hiver, c'est lié à des petites infections, donc c'est un peu plus les enfants, surtout que dès qu'on a une conjonctivite, c'est la catastrophe à la crèche ou à l'école.
Et oui, c'est des épidémies de conjonctivite. Vous en voyez, donc là, en ce moment, par exemple, il y en a toute l'année des conjonctivites ou pas?
Il y en a toute l'année, mais c'est par vague, par période, et puis c'est souvent à la demande des crèches qui dit oh là là, c'est une catastrophe, votre enfant a une conjonctivite, vous devez.
On nous oblige, hein, ça c'est
vous
sûr.
Vous devez absolument prendre des antibiotiques, et encore une fois, les antibiotiques ne sont pas systématiques dans la conjonctivite.
Comment on fait la différence virale, bactérien?
Alors, dans la plupart du temps, c'est viral, donc vous n'avez pas besoin de colir antibiotiques. Les sécrétions, elles sont présentes, mais elles sont plutôt claires. Elles ne sont pas purulentes, car dans la conjonctivite bactérienne, vous avez des vraies sécrétions et l'œil de l'enfant est vraiment collé le matin. Ce n'est pas simplement du petit caca dans les yeux, c'est vraiment l'œil qu'on n'arrive plus à ouvrir.
Exactement. Collé, ouais.
Et puis,
comment,
ça peut toucher.
Comment on nettoie cet œil collé de l'enfant quand c'est un bébé, par
du sérum qu'on peut acheter. Il y a des colliers spéciales, à la pharmacie avec un peu de compresse. Mais vous pouvez prendre de l'eau, du sérum physiologique, ça marche. Et puis, il ne faut pas hésiter à désinfecter, quelle que soit la cause de la conjonctivite, virale ou bactérienne. On commence par un petit antiseptique qu'on achète à la pharmacie sans ordonnance. Mmh. Si ça ne passe pas au bout de quelques jours, peut-être que là, il vous faut des antibiotiques.
Très bien. Bah, écoute, on a tout dit, je crois, Jimmy.
Il ne faut pas oublier de dire que c'est contagieux, soit viral ou bactérien. De toute façon, c'est contagieux. Et souvent, la virale est très contagieuse. Et on a des petites épidémies dans la famille où tous les membres sont malades. Et donc, il suffit de bien se laver les mains parce que c'est la meilleure façon d'éviter de l'attraper.
Bon, en ce moment, de toute façon, le lavage de mains, hein, je crois que contre la conjonctivite ou le reste, c'est important.
Saison.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. C'est la chronique sexo, évidemment, de Catherine Blanc, celle que vous attendez tous. Catherine est là en studio avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Louise, je vous la lis. Ma fille est au lycée à 18 ans. L'autre jour, j'ai abordé avec elle sa vie amoureuse et sexuelle. Elle m'a confié avoir déjà eu des rapports et même une fois avec deux garçons en même temps. Cela m'inquiète. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose dans son éducation. Que dois-je faire? Alors Catherine, pour commencer, le fait déjà d'aller demander des détails sur la vie sexuelle de sa fille, vous en pensez quoi? Je crois que vous n'aimez pas trop qu'entre parents et enfants, on se raconte forcément les détails.
Je ne suis pas sûre que le parent, la maman en l'occurrence, a demandé des détails.
Non, elle les a eues en tout cas.
Elle les a eues, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle, j'ose espérer, on pose la question, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tout va bien? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as déjà eu une expérience sexuelle? Ne serait-ce que pour vérifier que tout va bien, que son enfant n'est pas brusqué dans quoi que ce soit, qu'elle ne se sent pas contrainte. Si l'enfant botte en touche en disant « Oh, ça va, je te dirai » ou « Je te dis pas », on s'arrête là.
Mais si l'enfant est très, très, très loquace.
Bah là, en l'occurrence, oui, j'ai déjà eu des relations sexuelles. Et d'ailleurs, même une fois avec deux garçons. Ça pose plusieurs questions. Ça pose le souci de l'envie de provocation éventuelle en disant, est-ce que tu crois, bien sûr, et puis j'ai fait ça, et puis la brouette espagnole, tant qu'on y est. Et du coup, ça pose vraiment la question de pourquoi l'enfant a besoin d'être force de détail comme ça. Est-ce que c'est justement pour déranger, titiller, me mettre mal à l'aise une maman?
Ou juste être honnête.
Voilà. Ou alors, ou est-ce que c'est un enfant qui a besoin, une jeune fille qui a besoin de... Puisqu'on en parle, ben je dis tout par le menu, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, je crois qu'être grand, c'est être. Mmh. C'est-à-dire, puisque j'ai fait l'amour, je suis du côté de ceux qui font l'amour, et ceux qui font l'amour, ils se disent qu'ils font ça, qu'ils sont capables de faire ça, de ça. Et c'est un peu comme ça que les jeunes gens ont tendance à s'aborder, ou même... Ils transmettent leur CV sexuel, c'est-à-dire « je suis capable de ça, j'ai fait ça, preuve que je suis un adulte
ouais, ».
Et auquel cas, il faut pouvoir dire « écoute ma chérie, puisque tu me dis ça, je m'inquiète, est-ce que c'était ton souhait? Est-ce que tu étais contrainte? Ou est-ce que tu te sens obligée de me raconter les choses ?» Parce que dans votre génération, vous avez tendance à vous raconter un peu tout.
Jimmy ?
Alors, je ne suis pas très ouvert sur la question, pour être tout à fait honnête, hein, si jamais c'était mes enfants qui me racontent ça. Mais néanmoins, à partir du moment où on a posé la question... Il faut être prêt à entendre la réponse.
Bien sûr.
Mais du coup, comment est-ce qu'on aborde ça? Est-ce qu'on leur dit clairement que ce n'est pas normal en termes de fréquence, la normalité, d'avoir un rapport sexuel avec deux autres personnes en même temps? Ou est-ce qu'il faut jouer la carte un peu de l'indulgence ou d'être cool pour ne pas les brusquer, les braquer et les empêcher de nous dire ensuite si jamais ça venait à déborder?
Alors, les derniers mots sont importants, c'est les empêcher d'en savoir plus. C'est-à-dire que c'est effectivement... on fait des yeux de lapin dans les phares d'une voiture et qu'on arrive avec le sifflet dans la bouche pour dire « halte là, c'est anormal ». Évidemment que
ça doit être difficile quand même de bien réagir quand votre fille de 18 ans vous annonce une chose pareille. Mais...
ben, on peut dire qu'on est surpris.
Donc on évite d'avoir l'air choqué, d'accord?
Non, on peut dire qu'on est surpris parce qu'il semble que, compte tenu du début d'une sexualité, c'est peut-être pas... on ne commence pas par la fin, hein. En général on y va progressivement et peut-être à ce moment-là de dire, écoute, je suis surprise, je ne juge pas, mais je suis surpris ou surprise, mais dis-moi pourquoi comme ça, c'était ton souhait, tu sais que c'est pas nécessairement, on n'est pas toujours obligé de faire tout ce que les uns et les autres désirent. Maintenant, si c'était ton désir, qu'est-ce que ça raconte? Et d'ailleurs, est-ce que tu as envie d'en parler?
Qu'est-ce que ça raconte, d'ailleurs, cette jeune fille de 18 ans qui fait déjà des choses comme ça?
Sans jugement, bien sûr. Oui, non, mais ça peut être parce que, tout simplement, on a besoin de prouver qu'on est capable. C'est ça le drame, d'ailleurs, de la jeunesse. C'est que, comme on vient de quitter l'enfance, on veut prouver qu'on est déjà un adulte et qu'on est capable de tout. Et souvent, on s'amène sur des rives qui sont... beaucoup trop éloigné de ses capacités personnelles. Donc souvent c'est je veux plaire, je veux montrer que je suis à la hauteur, je veux pas être aussi détrônée par une autre qui en serait capable. Et souvent on fait des bras de fer avec des inconnus qui n'existent d'ailleurs pas pour être capable de choses, pour avoir l'allure d'une compétence mature. Et c'est en ça qu'il faut pas juger son enfant, il faut l'aider à exprimer les choses pour pouvoir le protéger le cas échéant de lui-même.
T'as compris, Jimmy, ne pas juger.
C'est compliqué, c'est dur. Hein. Quand on
oui,
est parent,
c'est
dur de dire je suis surpris. On aura envie d'être plutôt plus sévère, mais c'est contre-productif. Après, il faut dire, est-ce que peut-être les jeunes, ils ont une relation différente au corps et à la relation sexuelle? C'est quasiment pas un engagement. On fait ça, on s'amuse et puis on passe à autre chose.
Oui, ce qui est souvent plus douloureux pour eux, ça va être d'être tombée amoureuse et que le garçon l'ait quittée, par exemple, ou qu'elle elle pense à lui, qu'elle ait envie de lui écrire des lettres d'amour, peut-être beaucoup plus engageant que la sexualité, parce que la jeune génération aujourd'hui s'est arrangée pour pouvoir, parce qu'on parle beaucoup de sexualité dans notre vie, donc ils ont le sentiment que ça fait partie de, j'allais dire, des us et coutumes et de la tribu, en quelque sorte. Et ce qui est plus intime, c'est ce qui est plus émotionnel. Et du coup, il déshabille la sexualité de tout l'émotionnel, qui pourtant c'est le fondement même de la sexualité, pour mettre de côté l'émotionnel. Et du coup, ils font tout et n'importe quoi dans le corporel, comme s'ils en oubliaient que c'était leur corps.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils qui seront précieux pour les parents qui nous écoutent. Merci beaucoup et à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans son rendez-vous, une émission consacrée aux peurs et aux phobies scolaires. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes une collectionneuse, Mélanie?
Oui, je collectionne quelques petites choses.
Quelques petites choses, comme ça vous appelez les hommes? Bravo.
Pas du tout, non, des objets, je parle d'objets.
Attention,
uniquement.
Oui, attention.
Mais pas les timbres, par exemple.
Ah, j'en ai des timbres, oui.
Ah oui.
Et j'en avais une grande collection quand j'étais petite, surtout.
Parce que dans l'émission Historiquement Vôtre, nous avons trois grands collectionneurs. D'abord, celui le plus grand collectionneur de l'histoire des timbres, Philippe de la Renotière von Ferrari.
C'est bien qu'il y avait un von quelque part. Trop, tu vois. Oui. Philippe de la Renotière von Ferrari.
Oui, voilà.
On va avoir également un collectionneur de femmes, c'est pas très Me Too, oui. Mais on va parler de Giacomo Casanova. Mm-hmm. Et un collectionneur de disques, le DJ préféré de Stéphane.
Oui, Bob Sinclair.
Bob Sinclair.
C'est assez classe, hein. Ça donne envie en tout cas. C'est un très beau programme et je serai à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, et vous aussi.
Hein.
Aussi bien sûr, grand collectionneur, Jimmy.
Ah oui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1. Hein.